IDFM Radio, le média valdoisien.
Bienvenue, bonjour à tous sur l'émission Les Voix de l'Engagement. Aujourd'hui, nous avons des invités exceptionnels. Bienvenue à tous et à tous dans cette nouvelle émission dédiée à ce petit miracle français qu'on appelle le monde associatif. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur notre émission Les Voix de l'Engagement. Les Voix de l'Engagement, c'est une émission qui démarre sur IDFM et qui va s'intéresser à l'engagement d'individus professionnels, bénévoles, qui vont s'intéresser à la réalité parfois dure de personnes vulnérables qui ont besoin d'aide. Et c'est assez rafraîchissant, encourageant de voir que des individus aujourd'hui dans notre société s'engagent pour soutenir les plus en difficulté, les plus vulnérables, ceux qui ont besoin de notre aide. Et aujourd'hui, on a autour de la table, alors d'abord moi, dans l'animation, Assad Mohamed, qui suis également directeur départemental du groupe SOS sur le Val d'Oise. Et je reçois aujourd'hui des invités exceptionnels qui s'engagent au quotidien pour, dans leur localité, parfois dans des territoires plus larges, plus vastes, et qui vont aujourd'hui nous parler de leurs actions et de nous dire un petit peu comment ils les entrevoient. Alors, on va commencer d'abord par Naïma Boudar. Naïma Boudar, qui est directrice de FAS Val d'Oise, FAS, C-E, 95. Voilà, 95, et qui va nous dire un peu ce qu'elle fait. Et on reçoit trois autres invités. On reçoit aujourd'hui Souhaïla, qui est une bénévole. Et alors, on a des professionnels, juste avant, je vous parlais de Naïma, mais on a aussi des bénévoles qui s'engagent. Et on a le président de l'association La Maison.
Dans la maison.
Dans la maison.
Exactement.
Hamza, que j'accueille fièrement aujourd'hui parce que je connais l'action qu'il mène sur Villepinte, mais aussi ce qu'il peut faire aussi dans des établissements d'aide sociale à l'enfance, où il intervient aussi parfois avec, pour des jeunes. Et à côté de lui, Lila, qui est infirmière et qui est aussi bénévole dans l'association Dans la Maison. Et c'est exceptionnel de voir une infirmière, un métier quand même d'engagement énorme, hein, on l'a vu sur le Covid, et du coup qui s'engage aussi par ailleurs avec toi dans ton association.
Exactement.
Voilà. Alors, on va évoquer évidemment tous ces sujets, mais avant, je voulais vous lire rapidement un petit texte sur l'engagement. Oui, vous savez, ces gens qui bossent gratos, souvent avec un vieux thermos, trois chaises bancales, un rétroprojecteur qui date de 98, ça doit parler à quelques professionnels. Et pourtant, ils changent le monde, rien que ça. Pendant que certains courent après les dividendes, d'autres courent après un gamin sans chaussures, une famille sans toit, une mamie sans visite, ou un jeune sans repère. Et ils ne le font pas pour la gloire, ni pour la Rolex à 50 ans, ça vous parle. Ils le font parce que c'est juste, parce que c'est vital, parce que c'est humain. Le monde associatif, c'est 1,8 million de salariés, 20 millions de bénévoles, on en a une aujourd'hui avec Souhaïla, et des cœurs énormes pour accompagner ces personnes en difficulté. C'est le bras tendu quand tout le monde baisse les bras, c'est le dernier refuge quand plus rien ne tient, c'est le coussin d'humanité dans une société qui pique un peu. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ces histoires de terrain, de courage discret, de solidarité concrète. On va rire aussi, parce que l'associatif, c'est aussi rire beaucoup. Hein, et il faut évidemment tenir sur la durée. C'est un marathon que l'engagement associatif. Et souvent, c'est la meilleure arme contre l'impossible. Pour des gens qui cherchent le possible en permanence. Alors, attachons nos ceintures et lançons-nous. On va d'abord interroger notre directrice de face, Naïma Boudar. Alors Naïma, d'abord peut-être si tu peux nous parler rapidement de FAS, nous dire ce que c'est que FAS et ce que FAS fait sur le territoire du Val d'Oise.
Merci Assad donc, pour cette invitation. Merci pour cette première sur la radio de l'engagement. C'est pour moi déjà un honneur et une fierté de pouvoir finalement répondre à tes questions et mettre en avant la lumière et l'engagement qu'on porte tous en tant qu'association, parce que FAS est avant tout une association. Et c'est souvent des hommes et des femmes engagés. Donc c'est vraiment en tout cas une fierté. Et puis je vais aussi à travers toi découvrir une association, donc l'association Dans la Maison, que je connaissais absolument pas, donc je vais pouvoir découvrir, et je vois que la relève du futur est déjà là, donc c'est important et intéressant. Alors qui est FAS alors avant de commencer par dire qui est FAS, j'ai envie de dire qui je suis avant. Qui je suis ? Je suis d'abord une petite jeune avec plein d'espoir, plein d'envie, avec l'idée que l'avenir il est aussi pour nous et pas que pour les autres. Et que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes chances, qu'on n'a pas tous le même réseau. Et c'est pas grave, on a l'espoir, l'envie, la motivation et l'envie de changer le monde. Donc c'est vraiment ça qui nous porte. Et donc c'est un peu cette idée un peu folle, où j'ai toujours donné, je vais vous dire une anecdote perso, je pensais que pour être bénévole, il fallait avoir 18 ans. Donc moi j'ai fait ma liste d'associations, j'ai regardé toutes les associations qui étaient pertinentes, et à 18 ans, avec ma pièce d'identité, j'ai dit c'est bon, j'ai le droit d'être bénévole, finalement, comment je peux aider ? Et donc j'ai commencé à donner des cours de soutien à des jeunes de quartier, dans mon quartier, donc c'était Nanterre, Pablo Picasso, Nanterre que j'aime parce que c'est une ville que je porte et qui me tient à cœur. Et avec cette idée de leur dire, la vie elle continue, l'espoir il est là, et ce monde-là il est aussi pour toi. Et donc du coup c'est à travers ce regard des jeunes et de la réussite qu'on pouvait leur apporter, c'était juste leur apprendre à lire et écrire et à leur dire tu peux y arriver. Tu peux y arriver, et puis l'école, elle est faite pour tous. Et puis l'école, elle nous donne toutes les chances. Même si c'est difficile en ce moment, elle nous donne la chance de pouvoir s'élever. Et puis il faut croire en soi, et puis il faut se donner les moyens. Ça, c'est important. Et donc FAS, pour moi, c'est aussi la continuité de mon histoire. C'est cette idée que on peut, à travers donc, des engagements humains, donc des hommes et des femmes qui ont eu des parcours de vie très très différents, mais qui croient en un monde meilleur, qui puissent finalement avancer ensemble. Donc FAS, c'est un club d'entreprise engagé, c'est une association avant tout portée par la fondation FAS, qui est reconnue d'utilité publique, qui existe depuis plus de 30 ans, qui est représentée par Jean Castex actuellement, et qui œuvre sur 58 clubs en France. FAS Valdoise, c'est aussi toujours une histoire de folie, en se disant, écoutez, moi je dois travailler sur l'engagement, la RSE pour un grand groupe, on me parle de FAS, je ne sais pas qui vous êtes, et quand j'ai découvert FAS, je me suis dit, en fait, on peut faire le champ des possibles encore, mais avec les entreprises. C'est ça qui m'a passionnée avec FAS. Et donc FAS Valdoise, c'est donc 10 ans d'existence, on œuvre sur 3 champs, l'éducation, l'emploi et le recrutement innovant. Sur l'éducation, on va faire découvrir aux jeunes que le champ des possibles, il existe, mais que pour pouvoir choisir, il faut pouvoir réfléchir et pour pouvoir finalement chercher. Il faut absolument déjà se renseigner. Mais quand on regarde, on nous dit l'information, elle est facile. Elle n'est pas si facile que ça. Parce que si on connaît, si on a des bonnes personnes qui vous donnent les bonnes clés, souvent je dis c'est les entreprises, et ces entreprises-là qui vous disent « Moi, si tu es intéressé par ce secteur d'activité, je peux te tendre les mains et te tendre les bras sur ton orientation. » Donc finalement, sur la partie éducation, on va très tôt dans les collèges pour dire « Je veux t'aider à découvrir le champ des possibles. Mais ce champ des possibles, je vais te le structurer. Je vais te faire venir des collaborateurs d'entreprise, des Valdoisiens qui ont été dans l'établissement du Valdoise comme toi et qui ont eu des parcours parfois pas forcément linéaires, mais que finalement, son orientation, elle se travaille. Et en fait, on le fait toujours avec une ambition un peu folle et des idées un peu folles. On a décidé depuis 2016 de mettre en place des battles de projets industriels. Donc, je demande aux collégiens, imaginez les transports en 2050, 80, et en fait, ils inventent des idées complètement folles parce que finalement, ils n'ont pas toutes les contraintes techniques et logistiques, mais leurs idées, parfois je me dis, elles sont complètement réalisables et opérationnelles. On œuvre aussi sur l'accompagnement des publics éloignés de l'emploi. Les bénéficiaires du RSA, c'est vous, c'est moi, probablement demain ou après. C'est des candidats qui ont eu des parcours avec des fractures, des histoires parfois difficiles. Souvent, c'est des aidants familiaux, souvent, c'est des professionnels, mais qui ont eu des difficultés professionnelles et qui ont tout abandonné en se disant « Moi, j'abandonne, je préfère un licenciement ou je préfère abandonner mon poste que continuer à subir. » Donc, c'est vraiment des profils qu'on dénigre, parce qu'on dit, oh, les stéréotypes, les bénéficiaires du RSA, c'est des profils très éloignés de l'emploi. Non, c'est plein de candidats complètement différents. Souvent, c'est des histoires et des pages blanches que je construis avec eux, avec toujours cette idée, repartons sur cette page blanche. Si on pouvait changer les choses, qu'est-ce qu'on deviendrait ? Et le dernier, comme ça tu coûtes, t'as compris ça, que je suis très bavarde. Le dernier, c'est le match pour l'emploi. C'est recruter sur la philosophie du sport. Candidat et recruteur, on ne sait pas qui est qui. Et bien finalement, on va se découvrir, mais en plus, en faisant de l'handisport. Un sport qu'on, pour nous, en tout cas au niveau de face, on est à la 18e édition. On n'a pas attendu les paras. Pour nous, le handicap, il est dans la tête. Alors bien sûr qu'il y a un handicap physique, un handicap psychique, etc. Mais il y a aussi la possibilité d'avancer ensemble. Et puis ben, si on se met dans le corps d'une personne en situation de handicap qui fait une activité sportive, finalement, passer un entretien ou défendre son CV, c'est pas grand-chose. C'est toujours cette philosophie. Et donc face, je vous ai dit, c'est 10 ans d'existence, 250 entreprises engagées. Donc c'est des grands groupes, des petits groupes, d'autres associations qui œuvrent avec nous. Et on a toujours cette baguette magique et cette idée folle de pouvoir changer les choses. Et c'est aussi 5 collaboratrices extra, je dirais 6 parce qu'il y a aussi notre alternante, 5 magnifiques jeunes femmes qui se battent tous les jours à mes côtés, une alternante qui a 19 ans et qui donnerait l'impression qu'elle en a 25. C'est des services civiques chaque année. Sachez qu'on recrute chez FAS 10 services civiques. Donc si vous avez des belles personnes qui veulent découvrir l'environnement ou l'éducation, la formation ou l'emploi, n'hésitez pas à leur proposer de venir chez nous. En tout cas, elles seront en tout cas intégrées, formées et on leur donnera les clés pour aller vers le marché du travail. Voilà, c'est un peu ça mon histoire et l'histoire de FAS.
Ah, et puis on rappelle que le président de FAS, c'est Jean Castex, je crois.
Le président de FAS, c'est Jean Castex.
Et le DG, Timothée Delacote.
Timothée Delacote, voilà. Et le président de FAS Val-d'Oise, c'est Olivier Boudara.
Très bien, merci pour cette précision. On reviendra vers toi tout à l'heure, Naïma. Mais avant, on va passer la parole au président dans la maison. Monsieur Hamza, qui va nous parler de son association. On t'écoute, Hamza.
Bah déjà, bonjour, messieurs, dames. Je me présente, je m'appelle Hamza. Déjà, je tiens à te remercier pour l'invitation. Vraiment, ça fait plaisir.
C'est normal.
Donc, c'est vraiment une chance pour nous d'être là aujourd'hui.
C'est normal. Et tu sais pourquoi on t'a invité ? C'est parce que cette émission a pour objectif de mettre en lumière les personnes qui, de manière très isolée, le plus souvent, font un travail remarquable sur le terrain. Et l'idée, c'est de vous accueillir et vous mettre un peu en lumière à travers, et modestement évidemment, mais à travers cette émission.
Ah, bien sûr, merci aussi. Bah, aujourd'hui, je viens d'entendre de parler de FAST parce que je ne connaissais pas du tout. Et donc, ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a justement des personnes qui œuvrent pour le bien. Ça fait vraiment plaisir. Et en fait, voilà, moi, je m'appelle Hamza, donc je n'ai pas envie de vous parler de moi parce que j'ai une histoire, on va dire, derrière tout ça. Et aujourd'hui, si je suis engagé, c'est parce que je suis passé un peu par la misère. Moi, je suis arrivé en France en 2001, donc le 5 octobre 2001. Donc, je savais pas dire bonjour, je savais pas parler français. Il fallait absolument que je fasse mes preuves. Et j'ai été directement à Montfermeil. J'ai travaillé pendant 15 ans au marché, dans les fruits et légumes. J'ai pour subvenir aux besoins de mes parents. Donc, ils avaient un peu besoin de moi. Et derrière tout ça, quand je suis arrivé à Villepinte, là, j'ai décidé de créer une association. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait faire des maraudes, surtout les petits jeunes qu'on pointe souvent du doigt, surtout les petits fumeurs de joint, soi-disant. Et quand on leur dit maraude, ils étaient tout de suite partants.
Mais... Alors, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une maraude ?
Une maraude, c'est quelque chose qu'on prépare avec les bénévoles, on prépare des repas et on fait le tour pour justement nourrir des SDF, donc des personnes sans domicile fixe. Et aujourd'hui, on est spécialisé dans le 93, c'est-à-dire que nous, on fait tout le 93. On fait ça une fois par semaine avec vraiment des bénévoles, des filles et des garçons. Surtout les mamans, elles préparent à manger. Et nous, derrière, justement, on fait le tour avec les bénévoles comme vous voyez aujourd'hui. Et on fait le tour et on fait pratiquement tout le 93. On commence par Villepinte, on monte au Bourget, la Courneuve, l'hôpital de Saint-Denis. Et on fait le tour avec tous les bénévoles. Aujourd'hui, on remarque que dans le 93, il y a énormément d'SDF. Et surtout que nous, vraiment, on va dans les coins sensibles. C'est-à-dire, on va aller dans les caves, on va aller dans les forêts. On va aller vraiment dans des endroits où très peu de gens peuvent y aller.
Et Pourquoi peu de gens peuvent s'y rendre ? Parce qu'il y a des risques.
Exactement, il y a beaucoup de risques et c'est délicat. Et aujourd'hui, vu que nous, ça fait, c'est comme si on a créé un lien avec eux. C'est-à-dire qu'ils nous attendent. Et même on a le numéro de certaines personnes qui nous appellent quand ils sont vraiment en état d'urgence et on essaye d'intervenir directement. Donc ça, c'est, ça fait partie aussi de l'association et ça fait partie aussi parce qu'aujourd'hui, notre association, elle est remplie de jeunes. On a pratiquement plus de 200 jeunes en fait qui œuvrent au sein de l'association car on a plusieurs pôles. Donc on a un pôle sportif, éducatif, on fait les maraudes, on intervient à l'hôpital de Robert Ballanger aussi au niveau des services pédiatrie et chirurgie pédiatrique. Donc c'est pour des enfants entre guillemets qui sont là-bas, qui sont plus ou moins tout un mois presque tout seuls à l'isolement. Il n'y a personne qui vient justement pour leur donner un petit mot, passer un petit moment avec eux pour leur redonner le sourire. Parce que la maladie aussi, ça fait vraiment mal quand on est seul. Et aujourd'hui, avec l'équipe DLM, ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on intervient au sein de l'hôpital de Robert Ballanger. Et j'en suis fier. Et donc aujourd'hui, au niveau aussi de l'éducation, donc on a aussi le pôle aide et devoir. Donc pour toutes ces familles qui sont dans le besoin, on leur propose vraiment un suivi avec des enseignants qui sont vraiment qui travaillent dans les écoles approximatives à proximité de Villepinte. Et pareil, je tiens à les remercier aussi parce qu'ils font un travail énorme. Aujourd'hui, on a 3 professeurs engagés au sein de l'association. Pareil, pour la remise en forme, justement pour ces mamans qui peuvent pas payer une licence de 200 €. On leur fait justement les jeudis et les mardis de la remise en forme, 100% femmes, et aussi le jeudi mixte. Comme ça, tout le monde peut s'y trouver. Et pareil. Et aujourd'hui, nous, pendant le Covid, en fait, on était vraiment sur le terrain. C'est là où on s'est vraiment... tout le monde nous a félicités et on a explosé. C'est parce que on distribue entre 400 et 450 colis par samedi. Donc, à tous les Villepintois. Donc, aujourd'hui, ça a été une... parce que nous, en fait, on voulait se rendre utile. On ne pouvait pas rester à la maison. Et on a formé une équipe. Et justement, avec cette équipe-là, on allait chercher la marchandise au marché. On avait les camions, on avait tout ça. Et donc, on distribuait entre 400 et 450 colis. Et en même temps, on faisait de la livraison pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir de chez eux. Et donc, on a fait ça pendant 6 mois.
Alors, Hamza, on va revenir dans le détail sur ces sujets. Mais pour l'heure, on va passer à une pause musicale. Et on revient ensuite avec Naïma.
Bye. IDFM Radio, 98 FM.
On reprend après cette pause musicale. Naïma, je t'ai écouté attentivement tout à l'heure et tu as évoqué plusieurs sujets, notamment l'handisport. C'est très étonnant ce lien entre l'handisport et le monde de l'entreprise. Comment est-ce que tu les articules ? Est-ce que c'est parce que tu as des bénévoles entrepreneurs qui accompagnent FAS, qui portent de l'intérêt pour les personnes en situation de handicap, ou est-ce que il y a un autre lien à faire ?
Pour moi, tout simplement, le handicap va de soi. C'est-à-dire que c'est pas un non-sujet, c'est un sujet de notre quotidien. Et on ne peut pas l'écarter. En plus, les entreprises, elles ont l'obligation de recruter leurs 6% de personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est un fait. Mais le handicap, il faut savoir que c'est souvent 80% des personnes qui sont en situation de handicap sont liées au travail. Donc c'est pas un sujet que l'entreprise, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je représente des entreprises et on est une association qui est soutenue par des entreprises. Le handicap est un sujet difficile, compliqué, aussi bien dans le secteur de l'éducation, mais aussi dans le secteur de l'entreprise ou dans le secteur associatif, rien que quand on parle du sport pour les personnes en situation de handicap. C'est un sujet qui est très difficile parce qu'il y a des thématiques logistiques, des thématiques financières, des situations familiales qui sont compliquées. Mais pour moi, le handicap n'est pas un non-sujet. Ça fait partie de notre quotidien, en fait. C'est nous. Nous sommes tous potentiellement des personnes en situation de handicap. À partir de ce moment-là où on se dit on est tous potentiellement des personnes en situation de handicap, comment on avance ? Comment on permet à des entreprises de recruter ? Comment on permet à des étudiants ou à des élèves de primaire de pouvoir intégrer un camarade de classe qui est en situation de handicap ? On parle de la thématique des AESH. Comment finalement on fait des activités de loisirs quand on est en situation de handicap, parce que finalement c'est un sujet, et souvent on a tendance à écarter ce sujet. Or c'est un sujet d'actualité du quotidien et non pas un non-sujet. Pour moi ça fait partie de mon ADN, ça a toujours été quelque chose que j'ai porté, mon mémoire de recherche en fin d'année portait sur la discrimination des personnes en situation de handicap. C'est quelque chose que je porte depuis toujours. Alors pourquoi ? C'est parce que tout simplement très tôt j'ai été sensibilisée au handicap. Et au quotidien, quand on vit avec une personne en situation de handicap, quelle qu'elle soit, c'est un parcours du combattant. Et on ne devrait pas.
Le match pour l'emploi, Naïma, c'est quand même une des grosses actions que tu mènes, qui demande un effort quand même assez énorme pour y avoir assisté, et qui invite et convoque beaucoup de professionnels et beaucoup de personnes en recherche d'emploi ou même de formation. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Le match pour l'emploi a été né post-Covid. Donc, vous vous souvenez tous de nos autorisations de sortie pour faire du sport. Je me suis dit, mais là, il y a une idée, en fait. Il y a quelque chose qui a du sens. Il y a quelque chose qui est fédérateur, le sport. On a tous fait des activités sportives. Et finalement, souvent, quand on est dans le recrutement, on passe à côté de certaines pépites parce que souvent, c'est des personnes qui savent super bien se vendre en entretien, mais quand on les met sur le poste, on n'a pas le savoir-être qui va. Et inversement, on a des pépites, mais qui ne savent absolument pas se mettre en avant ou qui parfois ont des trous sur le CV. Là, je me suis dit, comment on va travailler sur les stéréotypes pour arrêter les stéréotypes qu'on peut avoir sur les employeurs, arrêter les stéréotypes qu'on peut avoir sur les candidats. Et puis, n'oublions pas que le handicap est un sujet qui me porte à cœur depuis toujours. Et du coup, pourquoi pas matcher l'ensemble ? Et finalement, c'est encore toujours cette petite idée folle en me disant, rassemblons-le ensemble. Il faut savoir que c'est même pas moi qui appelle finalement les entreprises. Quand elles voient nos postes, elles nous appellent automatiquement en disant, quand est-ce qu'on peut participer à vos matchs pour l'emploi ? On en fait 4 par an. Ça fonctionne extrêmement bien et ça nous tient à cœur de le maintenir. Maintenant, on cherche toujours des financements pour les projets match pour l'emploi.
Bravo Naïma, on reviendra tout à l'heure sur ces sujets ensemble et c'est franchement passionnant de t'écouter et de voir que les efforts que tu mènes apportent des résultats, mais on parlera d'impact tout à l'heure. Je voudrais passer la parole à Souheila, qui est une bénévole qui accompagne l'association Dans la Maison. Et tout à l'heure, Hamza nous a expliqué qu'il s'entourait beaucoup d'acteurs locaux et de bénévoles. Et oui. je voulais avoir un peu ton témoignage, Souheila. Savoir comment est-ce que tu es arrivée dans cette aventure humaine Et qu'est-ce que tu en retires pour toi personnellement? Et qu'est-ce que tu as découvert aussi de la misère humaine qu'on peut, j'imagine, observer dans les milieux qu'a évoqué Hamza tout à l'heure?
Bah, tout d'abord, j'aimerais dire que Hamza, c'est une personne exceptionnelle. Il fait énormément autour de lui.
Je te crois.
Je vais le préciser déjà en premier temps.
Merci, merci.
Et bah, du coup, c'est grâce à lui que je mène tout ça. Du coup, dernièrement, on était à l'hôpital Ballanger, on a fait la kermesse avec les enfants. Je suis une personne très, très sensible. Du coup, bah, là, je remercie énormément Hamza d'avoir pu collaborer avec, enfin, d'être bénévole. Les enfants, enfin, comment vous dire?
C'est quelque chose qui te porte à cœur.
Ouais, voilà.
On sent l'émotion qui déborde, je comprends. Il s'agit d'enfants, bien sûr.
Il faut vraiment avoir le cœur solide, déjà pour voir les enfants malades et leur apporter beaucoup d'amour, déjà qu'ils en ont autour d'eux, mais leur apporter à travers l'association.
On peut rappeler quand même quelques chiffres sur les enfants malades, rapidement, mais c'est 1,4 million d'enfants qui sont hospitalisés chaque année en France quand même. 1,4 million, c'est un chiffre énorme. Hein.
Oui.
Énorme. L'âge moyen des enfants hospitalisés, c'est d'environ 6-5 ans.
C'est ça.
Et la durée moyenne de séjour en France, c'est 4,1 jours en médecine et en chirurgie, 2,3 jours.
Ouais, du coup, ça fait vraiment mal au cœur. Il faut vraiment avoir le cœur solide.
Surtout qu'il y a des enfants qu'on voit souvent.
Ouais. Et les principales causes d'hospitalisation en France, c'est les infections respiratoires aiguës, troubles digestifs, maladies neurologiques, traumatisme, problèmes de santé, mental aussi.
On avait les diabétiques là. On avait les diabétiques là en pédiatrie, du coup, avec la kermesse de l'hôpital Ballanger. Mila, tu avais un bébé de combien? Un an? Un an et demi?
Oui, il avait un an et demi, parce qu'il faut savoir que les enfants qui sont diabétiques, il y a plusieurs types de diabète. En fait, il y a le diabète de type 2 qui apparaît plus tard chez l'adulte, et on a le diabète de type 1 qui s'appelle le diabète insulino-dépendant. Donc, c'est des enfants en fait qui ne produisent pas d'insuline par le pancréas, et du coup, ils sont obligés de se faire des piqûres très très fréquemment d'insuline. Donc, c'est très contraignant pour les parents et même pour eux dans la durée. Rien qu'un adulte, on va lui demander de se faire une piqûre dans la cuisse, ça va être désagréable. Alors, imagine un enfant d'un an et demi, 2 ans qui doit subir ça très fréquemment.
Oui, et puis qui est dépendant aussi de ses parents et de ses proches.
Supporter aussi les machines.
Oui, bien sûr.
Ouais, c'est vraiment douloureux. C'est...
Et alors, ce bénévolat, on a compris que tu étais quelqu'un de très sensible. Du coup, ça a dû être un choc émotionnel pour toi, j'imagine, ou en tout cas, ça a dû remonter des émotions qu'il a fallu gérer. Que de voir ces gens en difficulté, ces enfants hospitalisés. Comment tu as géré ça? Est-ce que tu as trouvé du soutien dans l'association, justement, pour débriefer sur ce que tu pouvais observer? Parce que moi-même, j'ai fait des maraudes, et c'est vrai que c'est quelque chose qui impacte et durablement. Et du coup, c'est toujours intéressant de pouvoir un peu débriefer avec les équipes qui font des maraudes, pour pouvoir rediscuter de ce qu'on a vu, des échanges qu'on a pu avoir. Et est-ce que ça, c'est une pratique
Bah, de toute façon, après tout ce qu'on fait, on a toujours des réunions avec Hamza et on débriefe tout le temps après, que ce soit après les maraudes ou autres. Et oui, après on a un soutien énorme. On débriefe, on dit ce qu'on ressent. Enfin, pareil pour les autres, quoi. Mais c'est.
Alors Hamza, toi, dans tes modalités d'accompagnement sur les maraudes, comment tu opères, comment tu organises un petit peu ces maraudes? On va parler d'abord des maraudes et ensuite on reviendra sur
l'épicerie solidaire. Oui. C'est aussi peu notre... Aujourd'hui, c'est notre maison. on va en parler après, mais en tout cas, l'épicerie solidaire, elle a vu le jour il y a 5-6 mois. Et aujourd'hui, on a pas mal de familles qui sont dans le besoin, qui viennent justement faire leurs courses à bas prix. Donc c'est des personnes justement qui passent par un dossier, et c'est un dossier que nous on valide avec avec la mairie. Donc on travaille souvent avec l'équipe du CSAS, les services sociaux, donc ils orientent des personnes vers notre association, et ces personnes-là peuvent venir justement faire leurs courses en toute avant leur dignité. C'est comme s'ils étaient dans un supermarché, ils peuvent choisir eux-mêmes les produits qu'ils veulent et repartir avec, en gardant leur dignité, le respect, tout ce qui va avec. Et après ça, on fait aussi un accompagnement. Donc c'est pour ça que Souila, elle est là aujourd'hui. C'est parce que avec son institut, justement, on propose aussi des soins à ses mamans. Donc,
d'accord.
Voilà. Donc on travaille aussi avec pas mal de partenaires. et c'est que des partenaires qui sont bénévoles dans l'association. Aujourd'hui, nous, on s'autofinance avec pas mal d'actions qu'on fait toute l'année. Donc, on fait des activités, des fêtes de quartier, pas mal d'actions. Et à travers ça, justement, on fait des ventes de tout ce qui est barbapapa, popcorn, sandwich, crêpes. Et c'est avec ça, justement, qu'on s'autofinance et qu'on achète justement les articles qu'on a besoin pour ces familles dans le besoin. Donc, celui-là, avec son institut, elle arrive, elle ramène aussi une équipe avec elle. Et que ce jour-là, on l'appelle que pour elle, en fait. C'est 100% femme, 100% pour elle, et qu'elle prenne soin d'elle. Donc, soin du visage, brushing et tout ça, vraiment pour 5 euros. Donc, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Okay. Et moi, ces femmes-là, elles retrouvent le sourire. Et elles peuvent être justement contentes de ce qui se passe ce jour-là et elles attendent tout ça. En fait, une fois par mois, on essaye d'organiser ça et franchement, on a beaucoup de demandes et c'est dur de faire tout le monde, c'est pas possible.
Bien sûr.
Et donc voilà, donc ces familles, justement, nous, on les suit à travers pendant 6 mois et à partir de 6 mois, on essaye justement de refaire aussi un petit, on fait une petite réunion avec ces familles-là, voir réellement leurs besoins, si, entre guillemets, on peut les orienter pour des grosses associations qui peuvent les aider, parce que la plupart, ils sont endettés, ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Et donc, nous, cette charge-là, on essaye de l'enlever par rapport aux courses. Donc, ils vont faire des économies en faisant des courses, et derrière, ils pourront justement payer leur loyer.
Mmh. Voilà. On va faire une petite pause musicale, et on reprendra... Après, c'est sujet passionnant. Merci Hamza.
Merci à toi.
Pour ce que tu peux nous dire de ton activité. Et on reprend dans quelques minutes.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les pas supporter la misère.
Moi es-tu heureux?
Je suis pas heureux mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond je n'ai qu'un seul regret, je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
On fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio. Pour avoir le monde à refaire.
être un artiste.
IDFM, 98FM.
Voilà, la pause musicale s'achève. On a toujours avec nous Hamza, Naïma, Souhaïla qui est bénévole et Lila, notre infirmière du jour. Hamza,
oui.
Tu as évoqué les épiceries solidaires et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Tu sais qu'on recense environ 550 épiceries solidaires. On a au groupe SOS, il y a environ 500 épiceries solidaires avec le Andes. Qui est un gros acteur.
On est affilié chez Andes. On est passé par Andes.
Andes est un organe du groupe SOS et qui est très actif sur ces sujets-là. Et les bénéficiaires en France, c'est 230 000 personnes. Et chaque année, on
ça,
en a.
Ça ne cesse d'augmenter.
Davantage. Et on sait que les étudiants.
On en a aussi.
Se rendent régulièrement dans les épiceries solidaires. Voilà, le coût moyen, je crois, par course pour un bénéficiaire, les produits, en tout cas, sont vendus 10 à 30% du prix du marché.
30%.
30% du prix du
marché.
Voire
même des fois 40-50. Voilà.
Et en gros, un panier de 30 euros en supermarché revient entre 3 et 9 euros.
Ouais, 4 euros, ça dépend après les articles qu'il y a, mais l'avantage, c'est qu'ils peuvent choisir eux-mêmes les articles qu'ils veulent. C'est-à-dire, déjà, d'une, on passe ce anti-gaspillage, on gaspille pas, et en même temps, ils choisissent vraiment leurs produits, ce qu'ils veulent. Et voilà. Après, les étudiants, on en a eu pas mal d'étudiants, c'était après le Covid, mais maintenant ça s'est un peu stabilisé. Mais on a beaucoup de familles, on est à pratiquement 120 familles aujourd'hui.
Et si je peux me permettre, justement, les étudiants qui à la base venaient parce qu'ils avaient besoin de ces courses-là, finissent en tant que bénévoles au sein de l'association.
Pour vous dire, c'est ça qui est beau.
Vous dire à quel point, quand ils viennent au sein de notre structure, ils sentent qu'il y a zéro jugement et qu'on est justement là pour les aider un maximum. Et même nous, en tant que bénévoles, on est ravis après de pouvoir leur apporter ce côté un petit peu social que eux, de par leur situation, des fois, se disent par rapport à, j'ai un petit peu honte d'aller parler avec des jeunes de mon âge, etc. Et là, ils se sentent aussi accompagnés sur le plan plus psychologique et social de la chose, quoi.
Ouais, c'est un indicateur quand même qui est assez exceptionnel parce que du coup, vous parliez du jugement. Souvent, c'est le premier frein. On va me voir à l'épicerie solidaire, etc. C'est compliqué. Et puis, du coup, ils finissent à travailler avec vous.
Exactement. Aujourd'hui,
c'est bien la démonstration qu'ils ne sont pas jugés. Et au contraire, ils sont invités même à être acteurs un peu.
Aujourd'hui, on a des mamans qui étaient bénéficiaires au sein de l'association avec leurs enfants qui sont bénévoles.
Ouais.
Donc, c'est même leurs bénévoles, leurs enfants qui sont à la caisse.
C'est pour ça que ça s'appelle dans la maison. Vous êtes chez vous.
Exactement.
Donc, c'est parfait parce que du coup, dans la maison, je comprends mieux maintenant.
C'est là où on va en revenir. En fait, tout passe par la maison. Ouais. Donc, il y a l'éducation, il y a le travail, il y a de temps en temps un peu de... Quand je fais le rôle du grand frère, parce que on n'a pas que des jeunes faciles. Donc, à un moment donné, ils ont besoin de ce rôle-là. Et franchement, ils se confient tous vers moi. Donc, moi, avec eux, j'ai traversé un peu pas mal d'expériences dans ma vie personnelle. Donc, aujourd'hui, ils ont ce besoin-là de venir vers moi, est-ce que ça passe si je fais ça, si je fais ci, si je fais... Donc j'essaie de donner un rôle avec ma pédagogie à moi, parce que je ne suis pas...
Il y a Naïma qui trépigne d'impatience de te poser une question. Ou deux.
Hamza, je voulais juste déjà te remercier, parce qu'en fait, j'ai pas arrêté de dire que les jeunes sont engagés. Que les jeunes, quand on leur donne les moyens, ils avancent. On a vu une très belle démonstration de solidarité pendant le Covid. Et finalement, j'étais très triste que on revient dans la vie normale, entre guillemets, parce que bien sûr que la vie normale, elle est là. Mais on a laissé de côté tout l'engagement solidaire qui était pas du tout rémunéré, ni quoi que ce soit, ni calculé. C'était du bon sens. OK, vous pouvez pas faire vos courses, on va faire nos courses. Je viens d'un quartier, je sais ce que c'est que la solidarité dans un quartier. Et je trouve ça tellement merveilleux qu'on puisse, en tout cas à travers ton association, démontrer l'engagement des jeunes de quartier et moins jeunes de quartier, et les mamans, et la place de la famille en fait, en général. Donc du coup, je tiens à te remercier et je te laisse continuer.
Il y a son téléphone.
Merci à toi, c'est super gentil de ta part. Après, en sachant que chez nous, dans la maison, en fait, c'est tous des bénévoles. Donc on n'a aucune personne qui est rémunérée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on donne, on le donne avec le cœur, on n'attend rien en retour, juste un sourire.
On est rémunéré en sourire, exactement.
Exactement, donc je leur donne mon sourire, maintenant ils l'acceptent tous, ça fait vraiment plaisir. Et après, notre engagement, il est vraiment pour les familles dans le besoin. Et c'est vraiment famille, c'est-à-dire enfants jusqu'à personnes âgées. Donc il n'y a pas de frein.
Alors, je suis frappé par une chose, c'est que dans la maison, une association qui est sur Villepinte.
Exactement.
Vous ayez une telle diversité d'actions, notamment avec l'hôpital et l'épicerie sociale solidaire. Du coup, c'est comment tu fais pour piloter tout ça? Comment tu t'es organisé au sein de ton association? C'est quand même pas toi qui pilote tout ça directement.
Justement, j'ai beaucoup de bénévoles et je les remercie. En même temps, j'ai Samir qui est vice-président, qui est absent aujourd'hui. Et Lila aussi. Et à travers ça, on avait aussi Nadia qui aujourd'hui, justement, elle travaille, donc elle est un peu moins présente. Mais sinon, c'est grâce vraiment à tout le monde. C'est un travail d'équipe, en fait. Et c'est vrai que c'est moi l'image, mais c'est derrière, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre. Et c'est ça que j'admire énormément. C'est-à-dire que quand j'en ai vraiment besoin, ils sont tous là. Non, il faut pas lâcher, il faut que tu continues, c'est toi. Et donc, ça me fait vraiment plaisir. Donc, je tiens vraiment à remercier Samir, qui est vraiment aussi le vice-président et qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'ombre. Donc après, tu as Nadia aussi qui était vraiment avec nous dès le début jusqu'à la fin. Même aujourd'hui, elle est un peu absente, mais elle est toujours là. On a aussi Lila qui a intégré l'équipe autant que secrétaire. Donc elle fait un travail énorme. Et surtout, les bénévoles derrière, franchement, ça ne cesse d'augmenter. Donc on en a tous les jours pratiquement. Est-ce que je peux intégrer l'association? Comment on fait ceci? Après, c'est vrai que moi aussi, j'ai une vie, on va dire, personnelle. Mais derrière, je consacre pratiquement 80% de mon temps à l'association. J'y suis pratiquement tous les jours, sans exception.
Tu travailles, tu gagnes ta vie par ailleurs?
Oui, je travaille, je suis chauffeur de bus. Et en même temps, je travaille à Roissy en tant qu'agent PMR. Justement, j'accompagne les personnes à mobilité réduite. Et en même temps, je suis... entrepreneur.
Et
d'accord. Donc je fais tout en même temps. Donc on me dit à quel moment tu dors.
Ouais, c'est ça, un vrai couteau suisse en fait.
Exactement, on pose la question à quel moment tu dors.
Il dort pas.
Il est multifonction.
J'aime ce que je fais aujourd'hui. L'associatif, pour moi, aujourd'hui, c'est que c'est mon énergie en fait. C'est ce qui me fait tenir.
Mais quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, quelque part, sur le Val d'Oise ou ailleurs, et qui aurait envie de s'engager. Comme toi, ou monter une association comme la tienne, qu'est-ce que tu lui conseillerais?
C'est simple, il faut aimer d'abord. Il faut aimer. Si on n'aime pas, ça ne sert à rien de s'engager, honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, mais malheureusement, ils me le disent, hein, Hamza, non, je ne peux pas faire ce que tu fais. Donc si tu n'as pas le stress, un tout petit peu d'humanité dans ton cœur, tu ne pourras pas y arriver, parce que malgré que ça soit humain, il y a beaucoup de personnes où c'est devenu un business aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont restreints. Ils y vont plus. Mais quand tu viens dans la maison, tu vois que c'est humain. C'est qu'on n'attend rien en retour de qui que ce soit. On le fait avec le sourire, avec le cœur. Donc, il faut avoir l'envie déjà. Et c'est avec l'envie que tu vas y arriver. Et donc aujourd'hui, c'est une personne qui veut s'engager, je lui dis, engage-toi, parce que des personnes dans le besoin, il y en a. Et il y en a tout le temps. Ça ne s'arrête plus. Et surtout aujourd'hui, avec tous les prix qu'ils ont augmenté, on n'arrive pas vraiment à finir les fins du mois. Donc vaut mieux avoir des personnes qui peuvent les aider. Et donc j'encourage tout le monde à le faire. C'est honorable.
Voilà. Bravo à vous. En tout cas, c'est assez exceptionnel. Et je voudrais quand même qu'on puisse revenir sur Lila, qui est également bénévole dans l'association et qui, j'imagine, pilote plusieurs actions. Lila, parle-nous rapidement de ton parcours en tant que bénévole. Tu es infirmière.
C'est ça, exactement.
Et tu travailles où aujourd'hui? Dans un hôpital, j'imagine?
Oui, c'est ça. Je travaille dans les hôpitaux, dans les cliniques. Je suis infirmière vacataire. Principalement, je suis sur le secteur des urgences, de la médecine, un peu sur les soins critiques. Et justement, pour faire le parallèle, je travaille aux urgences. Donc des personnes qui sont en situation de précarité, qui viennent justement parce que ils ont besoin des fois pas forcément de soins physiques, mais de soins psychologiques. Et par soins psychologiques, j'entends pas forcément un accompagnement psychiatrique ou autre. Je parle de quelqu'un qui va discuter avec eux, qui va leur apporter un sourire, qui va prendre le temps. Et malheureusement, de par mon travail d'infirmière aux urgences, je n'ai pas forcément le temps aux urgences des fois de prendre justement ce moment-là avec eux. Et le fait d'être bénévole aussi en parallèle, ça me permet de pouvoir discuter avec eux un peu plus profondément que je ne pourrais le faire dans mon travail.
D'accord. Et comment vous êtes rencontrée avec Hamza, Lila ?
Alors, quand j'étais au lycée, j'avais des amis à moi qui faisaient la bourse au permis. Donc, en fait, la bourse au permis est en lien avec la mairie, est en lien avec l'association dans la maison. Et ça fait depuis très, très longtemps que je voulais faire du bénévolat, mais j'avais peur d'aller justement dans une association où ça serait plus, comme il disait tout à l'heure, pour le bénéfice, pour un petit peu, on va dire... En fait, je voulais que ça soit une association qui représente mes valeurs personnelles. Et ces filles-là m'ont poussée en me disant « Mais viens, tu vas voir, tu vas apprécier, etc. » Je suis venue une fois, je n'ai plus jamais arrêté d'y aller.
D'accord. Alors, souvent, on parle de votre génération, vous êtes jeune, hein, je le dis, vous êtes jeune, et du coup, on parle de votre génération comme une génération qui est en quête de sens, et qui a plutôt tendance à chercher des métiers où ils vont trouver du sens pour eux-mêmes, avant de chercher un quelconque salaire, etc. Alors, est-ce que c'est ce que je dis vous parle, ou est-ce que je suis à côté de mes pompes
Ah non, oui, oui, totalement. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je vais le dire, j'ai 22 ans, donc forcément, je fais partie de la génération que tu évoques, et je ne me voyais pas faire un travail juste pour faire un travail. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de valeurs personnelles comme l'humanité, l'engagement, l'honnêteté qui se perdent. Et moi, de par mon métier, encore une fois, je trouve qu'il est vraiment en adéquation avec le bénévolat parce que les deux se complètent très, très bien. Ce que je ne peux pas faire dans le cadre de mon métier, je le fais dans le cadre du bénévolat et vice-versa. Et vice-versa, excusez-moi. Et je suis très, très reconnaissante envers Hamza et l'association parce que j'ai appris tellement de choses, j'ai rencontré tellement de belles personnes. Et quand vous recroisez ces personnes-là dans la rue et qu'elles ne sont même pas gênées de venir vous voir et de dire merci pour ce que vous faites, ça fait chaud au cœur. C'est très gratifiant. Dans un monde où le matériel compte plus qu'autre chose, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore des personnes qui portent ces valeurs-là humanistes dans leur cœur.
Oui, Hamza. Si je peux rajouter un truc aussi, c'est que je ne l'ai pas dit, c'est qu'on intervient aussi à l'international. Donc aujourd'hui, on a rénové une école complète au Maroc. Et aujourd'hui, ces enfants-là, quand on arrive, on est les Pères Noël.
D'accord.
Donc je ramène une équipe de bénévoles avec moi. Et on a rénové toute l'école, parce que depuis la guerre de la France, elle n'a pas été rénovée. Et donc aujourd'hui, on est, on va dire, parrain de cette école. Et chaque, dans l'année, on fait 3 interventions. Donc les habits pour l'Aïd. Donc c'est nous, justement, à travers nos actions ici, quand on organise des ventes de produits, tout ce qui est barba papa, popcorn, crêpes, on récolte les fonds. Et on y va. Pareil, la rentrée scolaire. Donc là, au mois de septembre, on va y aller à partir du le 3 jusqu'au 10. Donc on va aller leur acheter les fournitures scolaires complètes, que ce soit cartable, trousse, cahier, tout ce qui va avec.
Pour cette école en question.
Exactement. D'accord. Cette école-là, aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'éparpiller.
Donc vous l'avez rénové et vous leur fournissez en plus.
Exactement. Tout ce qui est soins aussi, c'est-à-dire tout ce qui est médicaux, on essaye aussi de voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont besoin et on leur transmet directement. Mais là, on part en mois de septembre justement pour ce voyage humanitaire, donc ça fait découvrir en même temps, on va changer les cultures et faire des journées avec ces enfants-là ils attendent que ça. Ils sont vraiment dans la montagne, ils sont loin de tout, ils partent à pied et donc ces enfants-là, ils attendent que nous. Aujourd'hui, quand on arrive, quand tu leur dis, ouais, il y a dans la maison qu'ils arrivent, ils sont là dans la maison, dans la maison, et ça nous fait plaisir aujourd'hui, et c'est ça qui est beau. Et j'ai même des bénévoles des fois qui prennent leur propre billet pour y aller directement, en fait.
Et ce que tu as oublié de dire aussi, Hamza, si je peux me permettre,
bien sûr,
c'est qu'en plus de tout le reste, on a aussi financé la rénovation des écoles et les fournitures grâce à 3 soirées caritatives qu'on a organisées justement aux Espaces V de Villepinte, pour ceux qui connaissent, avec des chanteurs tels que Lina Mayem, Leila Adé, des Mohaka, humoristes,
Mohaka.
Donc il y a vraiment aussi des personnalités, on va dire, plus connues qui sont... On ne te connaissait pas encore, c'est normal, mais la prochaine, promis, t'as ta place. La prochaine, promis, t'as ta place.
Moi aussi, hein, je vais être invitée. Non, bah, avec grand plaisir.
Donc, on organise plusieurs soirées caritatives, justement. Et on a entre 1000 et 1500 personnes qui s'y rendent. Et justement, on organise des salons. Donc, les salons, justement, on invite justement des prestataires qui viennent et que derrière, ils vendent leurs produits à des prix justement attractifs. Et que là, c'est tout le monde peut venir, c'est ouvert à tous. Et donc, à travers ça, justement, on génère aussi de l'argent. Sans oublier aussi que la ville aussi a nos aides, il faut dire la vérité. Donc, qui nous met à disposition tout ce qui est locaux, tout ce qui est justement matériel. Et donc, je tiens à les remercier aussi. Et puis, on fait aussi des puits donc, dans pas mal de pays, comme le Tchad, le Rwanda, le Cameroun et le Pakistan. Donc, pareil, on propose aussi des repas à des enfants dans des orphelinats. Donc, on est même à l'étranger. Donc, voilà.
Lila, j'ai une question.
Oui, dis-moi.
Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais 22 ans.
Oui.
Comment ta famille, tes proches portent un regard sur cet engagement ?
Alors, mes parents sont très, très fiers de moi. La preuve étant que j'ai ramené mon petit frère dans l'aventure.
C'est vrai.
Donc, mon petit frère, depuis maintenant 2 ans, fait aussi partie de l'aventure d'Elem.
Je vais te couper. Pourquoi tes parents sont tellement fiers de toi ? Déjà, c'est la base. Et de deux, parce qu'elle a gagné aussi le concours d'éloquence qu'on a organisé.
Oui, c'est vrai, j'ai gagné un concours
d'éloquence. Donc, on organise aussi des concours d'éloquence. Et que, en gros, aujourd'hui, c'est à la côté de moi. C'est parce que je pense qu'elle parle mieux que moi. Donc, je suis aussi fier.
Ne te dévalorise pas, Hamza. Tu fais déjà beaucoup et très bien. Ne t'inquiète pas.
Donc, je suis très, très fier. Donc, aujourd'hui,
merci,
ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui,
on a eu... bravo.
Merci beaucoup, c'est gentil.
On a eu aussi 100% de bacheliers.
Ouais.
Au sein de l'association, et c'est d'accord. Une première, et ça m'a fait vraiment, là vraiment j'ai pleuré.
Ah, ils ont fait mieux que le taux national qui est de 85%, je crois, cette année.
Je vous jure, au sein de l'association.
Non, on a juste regardé DLM, on a vu 100%,
on a vu que tous les bénévoles qui avaient au sein de l'association,
ils
ont eu leur bac. J'ai dit, franchement, je suis vraiment fier.
Oui, parce que c'est la démonstration qu'ils ont pu suivre leurs études. Tout en menant des actions qui sont chronophages quand même.
Parce j'avais surtout peur de leurs parents, parce qu'ils me disaient mais ils passent plus de temps chez toi qu'à réviser.
Ouais. Du coup, ils ont réussi quand même.
Non, franchement, je suis très fier d'eux.
C'est quand même une belle démonstration.
Exactement.
Que...
Même au niveau des parents, donc ils sont fiers. Ils se sont dit j'avais peur à un moment donné parce que l'été. C'est là où justement on a pas mal d'activités, pas mal d'actions. Et il y en a beaucoup qui venaient vendre des crêpes et des barbes à papa et en même temps s'amuser avec les enfants que de réviser. Donc je leur disais, derrière, ne mettez pas la faute sur moi, vous allez réviser.
Mais je reviens sur Lila et Soeila, sur la question de justement ce qu'on évoquait à l'instant. Tu me disais que les jeunes avaient eu leur bac, pourtant ils étaient très actifs. Sur ton association, est-ce que quelque part c'est pas l'isolement qui est rompu grâce à ton association, parce que on observe de plus en plus de jeunes s'enfermant sur leur téléphone portable, sur des jeux vidéo, sur du virtuel en fait, hein. Ils ont une vie virtuelle devant un écran enfermé dans leur chambre. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de réviser. En revanche, être dans la société et s'y engager. Peut-être que ça les éloigne finalement de...
Ça leur ouvre pas mal de portes.
C'est cet environnement-là qui peut être dangereux, celui des réseaux sociaux, etc.
Ouais, l'isolement, c'est pas bon. C'est bon pour personne, l'isolement.
Et est-ce que vous diriez, Lila, que c'est peut-être un antidote, justement, au digital, etc.
Ah oui, le bénévolat, pour moi, est foncièrement et clairement un antidote contre l'isolement par le téléphone ou même par les nouvelles technologies. Tout simplement parce que quand on est bénévole et qu'on va dans une association où il y a des jeunes de notre âge qui sont aussi investis que nous, où, je vais vous donner un exemple, il y a la semaine dernière, on était au sein de la ville pour, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Village d'été.
Village d'été, merci. Pour le village d'été, on arrive, en fait, on n'a pas le temps d'être sur le téléphone. On doit décharger le camion, on doit tout mettre en place, on se met à préparer les crêpes, les barbes à papa, les gens arrivent, on discute avec les personnes. Et en fait, on est tellement investis par ce qu'on fait qu'on en vient à ne même plus penser au téléphone.
Merci Lila. J'ai une question importante à te poser juste après la pause musicale et qui va dans le sens de ce qu'on vient de se dire.
Je l'attends avec impatience.
No, you won't. Until you try. You'll never feel happy. You
never, 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 never feel.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
IDFM 98, on reprend l'émission avec nos invités. Et Lila, je t'avais dit avant la pause que je voulais reprendre avec toi la question de l'engagement associatif et bénévole.
Oui.
Et notamment, on a évoqué la question, Lila, des réseaux sociaux qui parfois isolent, enferment, et parfois on voit certains jeunes, mineurs, souvent, mais pas que, vivent par procuration en scrollant en permanence la vie des autres sur TikTok, etc., et leur engagement. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à des parents qui aujourd'hui voient leur enfant s'enfermer dans tous ces réseaux sociaux, etc., et avoir peu d'activité finalement avec d'autres, avoir une vie sociale très pauvre, qu'est-ce que tu conseillerais à ces parents ?
Moi, ce que je conseillerais à ces parents, c'est que dès le départ, les inscrire au sport. Déjà, premièrement, le sport. C'est vraiment un échappatoire, c'est une distraction, c'est un échappatoire, que ça soit du sport comme du judo où on est une personne face à une autre, ou même les sports collectifs comme du hand, du foot. Je parle du hand parce que j'en ai fait pendant 7 ans en compétition, et en fait je leur dirais les accompagner dans tout ce qui est sportif, dans tout ce qui est bénévolat aussi. Après, la plupart du temps, ces parents qui se retrouvent confrontés à des enfants qui sont plongés comme ça, la tête dans les réseaux sociaux, c'est un peu utopique de leur dire, écoutez, prenez votre enfant, sortez-le, amenez-le au sport, amenez-le faire de l'associatif. Je pense que ce qu'il faut faire avec ces enfants-là, c'est petit à petit, viens, on va aller marcher, on va aller au parc, viens, on va aller faire un tour dans un centre commercial. C'est peut-être des choses qui paraissent un peu, ça paraît des détails, mais en fait, petit à petit, comme ça, les amener à l'extérieur, vous allez rencontrer par exemple un jeune qui va devenir...
Est-ce que ton expérience, oui, avec l'association dans la maison, est-ce qu'au fond, ce serait pas ça, finalement, la solution pour ces jeunes, c'est-à-dire de leur offrir et de les inviter peut-être à s'engager avec d'autres pour prendre soin des plus en difficulté, plus vulnérables, etc.
Oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Mais
parce que je lis et je comprends dans ce que tu dis,
ouais,
que toi, ça t'a apporté énormément.
Oui, totalement.
Et t'as rencontré d'autres individus dans ce mouvement porté par Hamza et ses équipes. T'as sûrement dû été emporté par quelque chose qui peut-être t'a permis de te concentrer aussi sur tes études et sur tes... Parce que quand même, tu coches toutes les cases. T'as 22 ans, t'es déjà infirmière.
Oui.
T'as 22 ans, t'as mené déjà énormément d'actions associatives et t'es pleine d'énergie. Tu m'as l'air en forme quand même. Donc... c'est quand même que finalement ça c'est quelque chose qui est sain et qui permet aussi d'être aligné avec soi-même et de trouver de l'apaisement et une place dans la société. Et pour faire un peu le lien, moi, Souhaïla aussi, qui est elle très différente, c'est-à-dire que elle dirige, c'est ça, hein, tu as un institut de beauté,
c'est ça,
et du coup tu es une entrepreneuse du coup.
Oui.
Et pareil, tu t'étais engagée associativement, bénévolement, évidemment, est-ce que tu rejoins le constat de Lila ? Est-ce que tu...
Exactement.
Ouais, ça t'apporte, en tout cas, tu
énormément,
penses que...
Énormément, ouais. Énormément de bien.
Ah bah déjà,
tu te sens vraiment bien.
Bah déjà, j'ai rencontré Soula
à l'association.
Et depuis, on se lâche plus.
C'est ça.
Même Hamza, en dehors de l'association, c'est quelqu'un que je sollicite souvent. Énormément. Quand j'ai des questions, ouais, quand j'ai besoin, je l'appelle. Allô Hamza, qu'est-ce que t'en penses ? Et avec son franc-parler, directement, il nous apporte des réponses. Et moi, tout ce que je pourrais dire aux jeunes qui nous écoutent, c'est que vraiment, l'associatif, ce n'est pas fait que pour les adultes, ce n'est pas fait que pour ceux, entre guillemets, qui ont eu du temps à perdre. C'est fait pour tout. tout le monde. Et la vie que vous voyez sur les réseaux sociaux, cette belle vie, en fait, créez-la par vous-même. Exactement. Allez dans les associations, découvrez des personnes, faites des voyages humanitaires, vivez votre vie, ne la vivez pas à travers les réseaux sociaux parce que vous la subissez dans ce cas-là.
On a Naïma qui trépigne d'impatience d'intervenir. Naïma, vas-y, fonce.
Alors, bien sûr, je voulais absolument rebondir sur ce sujet puisque, comme je t'ai dit, j'ai commencé à dire, vous êtes la relève. Alors, on est une génération avec Saad, sans se dénigrer, génération qui n'ont pas vécu avec les réseaux sociaux, avec le téléphone portable, etc. Et c'est vrai que c'est très difficile à comprendre quand on voit que vous êtes parfois omnibulé par le téléphone. Et quand je dis vous, je parle de la génération des jeunes, hein, je ne parle pas de vous en tant que personne, loin de là, parce que justement vous êtes l'exemple inverse. Vous êtes en train de montrer que oui, bien sûr qu'il y a les réseaux sociaux, oui, bien sûr que le téléphone portable est un super outil parce qu'il nous permet d'apprendre plein de choses, que l'IA aussi peut nous aider à monter en compétence sur plein de choses, mais que du coup le vrai sens de la vie, et c'est là la question auquel vous répondez, c'est quoi le vrai sens de la vie? On parle de l'associatif, mais en réalité, on parle de l'humanité, de qui on est en tant qu'homme et femme. Et donc, de quel engagement on veut porter? Qu'est-ce qu'on veut faire, nous, au quotidien? Et en fait, juste avec vos mots et vos implications, parce que vous avez fait des réponses de solutions très complexes, très compliquées, parce qu'en fait, vous avez mené des actes. Mais derrière, il y a l'éducation pour tous que vous avez mis en place, la possibilité de s'alimenter chaque soir, chaque nuit quand on est étudiant. Vous avez répondu à qu'est-ce que c'est que le respect? Quelle est ma place, moi, quand j'habite une cité? Finalement, cette énergie perdue, ce quotidien où finalement on est extrêmement seul. Et là, en fait, vous cochez toutes les cases que moi, je trouve ça extrêmement intéressante et partante, et avec un côté très tellement humble et tellement jeune, tellement dynamique, tellement agréable à entendre. Ça, c'est important parce que du coup, vous touchez des choses et en plus, vous touchez l'international. C'est aussi important. C'est ce respect et ce sens de la vie. Là, en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un moment charnière, enfin, un moment important. Et je pense, quand on voit l'actualité, quand on voit le désastre de l'ego de certains, on se dit, mais on va aller au mur. Et quand je vous entends, je me dis, non. La société que je vais laisser à mes enfants, elle pourra aussi être bonne. Parce qu'en fait, il y a des hommes et des femmes qui continuent à croire à la même chose auquel je pense. C'est-à-dire qu'ensemble, on va toujours plus loin, plus fort. Et ensemble, la solidarité sera la solution de tous les problèmes.
Merci.
Ça m'a mis les frissons.
Merci, ah, ça fait plaisir. Merci. Vraiment, ça nous touche. Hein. Mais
si c'est l'image qu'on renvoie de positivité et de confiance future.
Et surtout, ce message, ça donne encore plus envie de travailler parce que on est souvent, on va dire, pas trop non plus félicité. Donc là, c'est juste des petits mots qui vont donner un sens à la vie. Que aujourd'hui, moi, je parle de moi personnellement, Hamza. Et ça me touche vraiment, c'est-à-dire que ça me donne envie encore de plus continuer, de plus créer, de plus inventer des choses. Je suis quelqu'un qui s'arrête pas, c'est-à-dire je déborde d'énergie. Et voilà, c'est juste ces messages, ces mots, aujourd'hui personne ne pourra m'arrêter. C'est simple.
C'est pareil pour toi, Laura. C'est pareil pour toi aussi. Hein. Merci pour tout ce que tu fais. Parce
tout le monde me suit.
Pour moi, c'est juste la normalité, en fait. Quelque part, c'est cette vie normale qui est je ne vais pas regarder de l'autre côté quand je vois un SDF. Moi, ça m'horripile, en fait. Je vais te ressortir une anecdote perso.
Vas-y, Naïma.
Mon meilleur ami, quand j'étais petite, c'était un SDF et un policier. Voilà. Et donc un SDF qui était super bienveillant, qui était là pour me regarder sortir de l'école et rentrer à l'école en disant c'est bon, tu étais bien rentré à l'école. Et puis un policier qui était là pour surveiller, pour nous donner le respect. En fait, c'est ça la vie. La vie, c'est prendre ce qui est fort sur les autres et puis laisser le côté mauvais, désagréable. Et quand je vous félicite, c'est pas des mots. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le secteur associatif. Depuis 30 ans, j'œuvre en disant oui, on n'est pas des fous, on est juste des gens normaux, humains, qui pensons que finalement, si on s'écoute, si on se regarde, si on se respecte, on réussira toujours.
Alors, merci Naïma, parce que c'est ce que vous dites, Naïma, comme Hamza et Lila et Souheila, c'est très inspirant et j'imagine que les auditeurs s'inspirent également de ce que vous dites Et l'autre point, moi, que je voulais évoquer avec vous, c'est que, évidemment, vous réalisez des choses, mais vous les réalisez dans un contexte de société. Et le trait d'union, moi, que je voulais mettre là, c'est celui avec les élus. Les élus locaux, on le sait, ce sont de grands soutiens associatifs. Ils apportent leur appui technique, financier, etc. Alors, évidemment, dans une ville, il y a plusieurs associations, il faut un peu accompagner tout le monde, etc. Et puis, il y a des orientations qui sont choisies par les villes au regard de la typologie de la ville et des habitants. Mais comment, Hamza, tu travailles aujourd'hui avec les élus? Tu as pu m'en parler un petit peu, parce que tu me disais que t'arrivais à t'auto-financer, qu'aujourd'hui tu ne réclamais pas forcément de subventions, tu as pu me le dire, ce qui est une bonne chose parce que du coup tu as une activité indépendante, mais les élus, le lien avec les élus n'est pas que financier, il est aussi dans le soutien moral même de ton association, et je crois que tu as beaucoup d'appui.
Oui, à ce niveau-là, nous, on n'a pas de problématique avec la ville, hein, honnêtement, même avec les élus. Donc aujourd'hui, on a Madame le maire qui nous soutient à travers nos actions. Elle aime ce qu'on fait, elle est investie avec nous. Derrière, il y a aussi Madame Farida Adlani aussi qui est adjointe au maire, et en même temps, elle est aussi vice-présidente de la région, qui nous aide énormément. Donc en 2019, bah, on a eu justement une subvention de sa part. Donc grâce à son aide avec la région, donc on a eu une subvention pour finaliser justement la période du Covid. Et donc franchement non, on a un soutien vraiment de la ville qui est aujourd'hui honorable, et on tient à les remercier.
Donc, Naïma, même question. Comment aujourd'hui tu travailles avec les élus?
Alors je peux pas ne pas travailler avec les élus, parce que en fait, il faut comprendre que tous les acteurs sont importants. À la fois les entreprises, à la fois le public du territoire, et à la fois les élus et les représentants de l'État. Si nous n'avons pas les représentants de l'État, nous ne pouvons pas finalement nous permettre de promettre des choses qui sont donc importantes pour le public du territoire. Donc moi, on a des soutiens du conseil départemental du 95, on a des soutiens de la préfecture, on a des soutiens de la région, on a des soutiens d'élus, on a des soutiens de mairies, de partenaires et autres, parce que finalement, travailler ensemble, c'est travailler ensemble. Donc on ne peut pas ne pas être avec des élus.
Alors, on va marquer un temps de pause et tu nous en diras plus après.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Naïma, on reprend, on est toujours sur IDFM. Et on reprend avec toi. Je rappelle que tu es la directrice de FAS 95, une grosse association nationale qui, sur le Val-d'Oise, propose des activités assez innovantes, le match pour l'emploi, handisport, etc. Donc on était sur la question de l'associatif en lien avec les élus locaux. De territoires qui connaissent bien les associations, qui les accompagnent, qui les soutiennent, etc. Parle-nous de ton expérience là-dessus. Est-ce que, par exemple, tu as déjà eu des blocages qui ont été résolus par l'action d'un élu, ou est-ce que tu as eu des élus qui t'ont facilité l'accès à de l'équipement municipal ou autre chose?
Alors, merci Assad pour ces questions. Donc, je reprends juste. Donc, FAS Val d'Oise est une association sur le Val d'Oise. Donc, on rayonne sur tout le Val d'Oise, c'est déjà pas mal. On est sur donc deux sites, Argenteuil, Beson et Cergy, et on touche un petit peu la partie Roissy, Pays de France. Donc, ensuite, au niveau des élus. Je ne peux pas dire que j'ai eu de blocage, au contraire, j'ai eu que des soutiens. Des soutiens parce qu'en fait, quand on parle vrai et quand on parle d'engagement, et quand on veut non pas faire des promesses, mais apporter des solutions, finalement, vous n'avez aucun blocage. Nous, nos blocages, on ne peut pas avoir de blocage dans le sens où on touche trois champs, qui est donc l'éducation, permettre aux jeunes et moins jeunes d'arriver vers leur métier, et donc vers les métiers en tension, à les faire découvrir. L'accompagnement des publics, aucun élu vous dira non, moi je veux pas que sur mon territoire les entreprises œuvrent et démontrent leur engagement RSE et recruter. Donc non, ce n'est absolument pas nous ces problématiques-là, et le handicap encore moins, puisque c'est un sujet d'actualité. Donc non, par contre, j'ai énormément de soutien. De soutien d'hommes et de femmes engagés, donc des élus, donc comme je disais en mairie, donc je reprends le soutien donc de la mairie de Cergy, donc avec tous les élus de la mairie de Cergy, je peux même pas en citer un de particulier puisque finalement ils sont tous engagés. Bien sûr que je vais citer un acteur territorial important, puisque FAS, quand il a été créé sous l'impulsion de la communauté d'agglomération de Cergy et du soutien des entreprises du Val d'Oise. Donc finalement, nous, au contraire, on a un soutien fort des partenaires du territoire, des partenaires publics, des acteurs de l'emploi et missions locales, France Travail et autres. Donc non, par contre, bien sûr que la limite reste l'aspect financier. Donc si on a plus de soutien financier, on peut plus démultiplier et dupliquer donc, nos actions. Et ça, c'est important, parce que ce qui est important, c'est d'arriver à nos promesses. On ne promet pas quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Pour nous, c'est agir qui est important et apporter véritablement la solution qu'on a promis. Et pour moi, une promesse, c'est un acte, un engagement, une valeur importante. Donc pour moi, voilà, quand je promets quelque chose, on le fait. Donc bien sûr, on aura toujours besoin de soutien financier des entreprises, des fondations, des mairies et des acteurs du territoire. Et tout engagement, même si c'est juste du temps homme, est important. Quand on parle du bénévolat, c'est de l'argent en réalité. Quand on donne finalement une heure ou une semaine de son temps, c'est de l'argent. Donc bien sûr, ce n'est pas de l'argent financier qu'on nous donne, c'est du temps homme. Et bien ce temps homme, on en a besoin.
En termes de chiffres, c'est quoi l'impact de FAS sur le Val d'Oise ?
Ah, très simple. Très très simple. C'est 1500 jeunes touchés chaque année sur les collèges et les lycées, donc de tout type de profil, des jeunes décrocheurs, des jeunes au collège, des jeunes au lycée, des jeunes appartenant aux missions locales, des jeunes qui n'ont aucun parcours, les fameux NEET. On a aussi donc des actions sur le mentorat, 80 jeunes par an. On a des actions sur les bénéficiaires du RSA à entrée et sortie permanente, on est à plus de 300 et quelques. On a aussi des actions sur le match pour l'emploi. Et le match pour l'emploi, c'est 100 candidats au minimum avec 20 entreprises. Et je répète, ce qui est important, c'est qu'on agit aux côtés de l'éducation, aux côtés des entreprises et aux côtés du public, du territoire. Donc on peut aussi compter les entreprises. Il y a 250 entreprises engagées chez nous. On veut toujours en avoir beaucoup plus parce que finalement, c'est avec les entreprises, puisque la finalité, si on veut se réfléchir, c'est d'aller finalement vers le monde de l'entreprise et travailler, avoir son poste, son évolution de carrière et puis bah, s'insérer et faire partie des hommes et des femmes citoyennes engagées.
Merci Naïma, on y reviendra tout à l'heure. Hamza, même question, c'est quoi tes chiffres, c'est quoi ton impact aujourd'hui ?
En toute honnêteté,
oui.
C'est inestimable. Honnêtement, on a tellement de pôles qu'aujourd'hui...
Belle réponse.
Non, mais pour de vrai, en fait, on a tellement de pôles qu'aujourd'hui aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je délègue aussi énormément. Donc, ça veut dire que dans chaque pôle, il y a un responsable. Et que vraiment, vous dire les chiffres, ça serait vous mentir parce que c'est inestimable. Vous venez par vous-même, vous allez voir. En fait, on en a tellement... qu'on n'a jamais eu le temps de les compter, quoi.
D'accord. Je vous dis la vérité. Toi, aujourd'hui, je pense que... Je ne suis pas trop loin de me tromper, mais je me dis que, finalement, tu as très peu de subventions, voire pas du tout.
Exactement, pas donc, du tout même.
Du coup, tu n'es pas franchement soumis à justifier, en fait, de ton action.
C'est exactement
en termes de
ça.
Chiffres,
on est plus sur le terrain, nous. Moi, je suis un homme de terrain.
D'accord, ok.
C'est pour ça, en fait, au niveau de tout ce qui est... D'accord. Logistique, tout ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis vraiment un homme de terrain et j'y vais pour de vrai.
D'accord. Après, je le dis comme ça, mais c'est toujours bien, de pouvoir dire un petit peu quel spectre on touche, quel est notre impact, etc. C'est toujours intéressant de mieux connaître son public, de le chiffrer, etc. Moi, ça me paraît inévitable, surtout aujourd'hui, de pouvoir dire, bah voilà, aujourd'hui, notre action touche tant de personnes. Tout à l'heure, vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez dit, vous avez réussi à dire quand même, mais vous saviez que 100% de vos jeunes ont eu le bac.
Exactement.
Ah, vous voyez ?
Exactement.
Donc, les chiffres, ils sont toujours là.
Exactement. Après, oui, pour l'épicerie solidaire, aujourd'hui, on a 120 familles. Donc, on sait qu'aujourd'hui, 120 familles, donc ça fait à peu près 300 personnes.
D'accord.
Qu'on connaît de quotidien. Donc, c'est mercredi, samedi, l'ouverture de l'épicerie solidaire. Donc,
à Villepinte.
À Villepinte. Voilà. Bravo. Et limitrophe, de temps en temps.
Combien d'habitants Villepinte aujourd'hui
environ? Si je ne me trompe pas, 40 000.
40 000 habitants environ. D'accord. Ok.
Sauf que si on mesure ton impact, en fait, tu vas pouvoir mesurer demain l'impact sur les colis, les familles et finalement qu'est-ce qu'ils sont devenus, en tout cas ces familles qui ont pu en bénéficier, mais aussi les bénévoles qui ont œuvré chez toi. Donc là, tu as déjà deux exemples de mesures d'impact qui est Leïla et Souheila. Donc du coup, tu vois que finalement, c'est un engagement qui est d'abord
humain.
Avec un temps et puis finalement une duplication, et donc il faudra aussi compter les bénévoles que tu as au quotidien, et c'est intéressant, non pas pour mesurer, c'est pas ça, c'est finalement pour pouvoir lancer ta stratégie et pouvoir faire en sorte de pouvoir œuvrer le plus efficacement possible. À un moment, il faudra que tu comptes pour montrer aux acteurs et aux partenaires du territoire comment tu peux être une clé, une solution à pas mal de problématiques, et je les avais citées, les problématiques. Et en fait, c'est impressionnant, les points que tu as pu toucher. C'est pour ça que ça sera intéressant de voir. Et je rebondis sur la question d'Assad.
Justement, je vous ai écouté, vous avez dit plus de finances, plus de travail. Donc aujourd'hui, je pense que oui, si on a des finances, justement, à travers des entreprises ou à travers, justement, des personnes un peu, on va dire, au niveau de la région, département, tout ça, donc ça peut nous ouvrir énormément de portes, parce que nous, ce qu'on fait, on le fait avec nos moyens, nos moyens, ils sont vraiment restreints, mais avec ça, en fait, on fait beaucoup de joie. Donc imaginez-vous si demain, on a ces finances-là. Après, c'est nous, on va pas les chercher, vous dire la vérité, je vais pas vous dire que c'est la ville qui veut pas me donner, ou c'est la région, ou c'est le département, non, c'est faux, ça serait vous mentir. C'est nous, on va pas les chercher, justement, on fait pas d'appel à projet, parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'est dit...
Est-ce que vous avez vos propres ressources?
Exactement. On fait tout nous-mêmes, et puis aussi on s'est dit vas-y, on le fait pour le plaisir, parce qu'en fait ça nous fait plaisir. Mais oui, c'est vrai, c'est demain, on a vraiment un côté, justement, un aspect qui finance. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus et beaucoup mieux.
Mais est-ce que c'est ton ambition? Est-ce que tu as envie
de faire?
Oui,
je pense que oui. Je pense que vraiment, c'est la prochaine étape.
Mets-toi à récupérer des subventions, etc. En tout cas, à candidater, à remplir du reporting, à faire des rapports d'activité, etc.
Exactement, je ferai des belles choses, je pense.
Voilà, vraiment. Écoute, en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question suivante, et je te la poserai aussi, Naïma. Comment vous envisagez aujourd'hui le futur de votre association?
Écoutez, moi personnellement, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc c'est mon petit bébé, comme on dit. Donc avant ça, il y avait papa qui est décédé.
Il était, mes condoléances.
Merci. Donc, il était aussi investi. Donc, à chaque événement, il était le premier à faire le barbecue. Donc, parce que il kiffait ça, et vraiment, j'espère qu'il est fier de moi. Donc, c'est un peu.
Sans aucun doute.
Exactement. C'est un peu aussi ce qui me pousse aussi à continuer à faire
On est tous fiers de toi. D'ailleurs, on te le dit jamais, mais on est tous fiers de toi, les bénévoles.
Donc, à continuer à faire le bien que je fais autour de moi. Donc, aujourd'hui, je le fais pour moi et pour papa aussi. Et j'ai aussi ma petite famille derrière aussi, comme maman et ma femme aussi, qui m'attendent à la maison. Donc voilà. Donc, c'est vraiment d'évoluer, c'est vraiment d'avoir aussi, justement, des personnes, on va dire, de confiance. C'est de travailler à l'international et d'aider le plus possible que je peux jusqu'à la fin de ma vie. Aujourd'hui, c'est vraiment mon souhait, c'est vraiment d'aider les personnes qui sont dans le besoin.
Alors, non seulement, je te le dis comme ça, mais non seulement tu aides des gens dans le besoin, sûrement, mais tu aides aussi des gens qui t'ont rejoint dans cette aventure. Je pense que ça leur apporte beaucoup, mais ne serait-ce que socialement. De se rencontrer. Tout à l'heure, Leïla disait qu'elle ne se lâchait plus avec Souheila parce qu'elles se sont rencontrées là, mais elles sont devenues amies. Elles ne se seraient jamais rencontrées, j'imagine, si elles n'étaient pas, sauf si Leïla serait allée chercher des soins à l'institut. Mais je pense que Souheila lui aurait juste demandé de payer sa prestation.
On a eu même des personnes qui se sont mariées aussi, donc ça fait plaisir.
Bon, c'est génial.
Oui, il y a
des mariées, donc ça fait vraiment plaisir. Vraiment, il y a vraiment un tout, c'est vraiment familial, c'est dans la maison, le vrai terme, c'est dans la maison.
Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir aujourd'hui deux associations qui font des choses qui ont ça en commun, c'est-à-dire que c'est le sens de l'autre, de chercher à être utile, à être efficace, etc., mais avec une organisation différente.
Oh, bien sûr.
Et Naïma nous a expliqué un petit peu comment FAS fonctionnait, mais c'est vrai qu'elle, c'est pareil. J'avais envie de dire, c'est un peu comme une famille chez vous, mais c'est aussi un peu pareil chez FAS, quoi. C'est aussi des entrepreneurs qui se rencontrent. Je crois que tu m'as parlé, tu m'as invité déjà, et je te promets de venir à l'occasion un de ces dîners, mais où ils se rencontrent régulièrement. C'est des gens engagés. Qui en plus, mais modestement, plus sincère, qui ne parle pas d'eux. Tu m'en parles souvent, mais j'arrive pas aujourd'hui à mettre d'image sur ces personnes, ces chefs d'entreprise qui sont engagés, parce que sûrement qu'ils le souhaitent, hein, rester dans l'ombre, mais ils sont tout aussi efficaces et ils se rencontrent régulièrement. Et on voit bien que l'engagement est un liant sociétal très puissant. Et on le voit dans ton organisation avec FAS, et on le ressent très fort dans l'organisation de l'association de Hamza, qui est dans la maison.
Et si je peux rejoindre Naïma, c'est ça. Donc, pareil, comme vous parlez d'handicap, nous aussi, on travaille aussi avec l'IME. Donc, c'est des enfants et des adolescents qui sont en situation de handicap moral. Et justement, ils les intègrent au sein de notre association pour qu'ils puissent trouver leur place, en fait. Ils viennent des fois, ils mettront en rayon avec nous au niveau de l'épicerie solidaire. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est même engagé au niveau de l'handicap sans vraiment qu'on
a un pôle accès.
Exactement. Donc, et aujourd'hui, il y a celui de Tremblay et celui d'Aulnay avec qui on bosse. Et surtout, eux, quand on fait une action, par exemple pour Noël, donc on fait une action que j'appelle ça la boîte à chaussures remplie d'amour. Donc, c'est une boîte à chaussures, on met pas mal de petites choses dedans. Donc, tout ce qui est loisirs, tout ce qui est aussi bonnet ou gants,
hygiène
et tout. Et nous, en fait, le 24 décembre, la nuit, on fait une maraude. Et à travers cette maraude, justement, on offre un repas chaud. On offre justement ces cadeaux-là qui sont faits spécialement par les enfants de l'IME, plus justement un sourire et un repas chaud avec tout ce qui va avec. Et donc, nous, ce soir-là, on est vraiment sur le terrain, et tous les SDF qui sont à l'extérieur, en fait, ils auront leurs propres cadeaux.
Exceptionnel, bravo. Donc,
des mini Père Noël et des mini Mères Noël.
Exactement.
Sur Paris, bravo, à 23h du soir.
Écoutez, vous m'avez franchement beaucoup touché.
Merci.
Vos témoignages assez exceptionnels. On arrive à la fin de l'émission. J'ai passé un très bon moment à vous écouter, à parler de vos organisations. Naïma, bravo, félicitations pour ton engagement. Alors moi, je le connais personnellement aussi, ton engagement. Je sais à quel point tu es mobilisé au quotidien dans des actions qui sont toujours très innovantes, très impactantes et qui te demandent beaucoup de travail avec tes équipes. Tu les as citées tout à l'heure. Naïma, si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, un chef d'entreprise, un salarié ou qui souhaiterait te soutenir, te rejoindre, comment est-ce qu'il peut prendre contact avec toi ?
Alors, pour prendre contact avec nous, c'est très simple. Donc, on a le site internet, donc FAS Val d'Oise. Alors déjà, avant de répondre à ta question, merci, parce que c'est vraiment... une chance de pouvoir finalement s'engager et vivre donc sa vie, à passer son temps à offrir un sourire. Finalement, c'est ça notre métier, c'est offrir un sourire et de l'espoir aux gens, et non pas de l'utopie, parce que c'est vraiment ça. C'est quand je parle d'engagement et de promesses, c'est qu'on va jusqu'au bout. Et quand on parle du Père Noël ou de la Mère Noël, c'est magnifique, parce que finalement, voilà, on enlève tout le côté religieux, on offre un cadeau, on offre un sourire, on offre de l'espoir.
Exactement.
Et ce que moi, je me souhaite en tout cas sur FAS Val d'Oise, c'est de continuer à pouvoir porter ses engagements, à pouvoir montrer que même quand on est en entreprise et qu'on a un travail, un emploi, on a besoin de trouver du sens. Souvent, il y a énormément de mal-être en entreprise, où souvent il y a aussi cette envie de dire « Moi, j'ai conscience de la chance que j'ai et je voudrais juste offrir au moins une journée ou deux ou une semaine à quelqu'un d'autre qui n'a pas cette chance et lui dire qu'il peut demain être moi et être à ma place. » Et puis rien n'est impossible, en fait, et la limite, elle est dans notre tête. Et si on veut changer le monde, on peut changer le monde. Alors oui, là, ça peut être une utopie, peut-être. Mais en tout cas, moi, je crois en l'espoir, je crois au fait qu'il faut avancer ensemble. Et donc, j'espère pouvoir encore porter les valeurs du Club FAS pendant très longtemps, aux côtés de mes collaboratrices qui donnent de leur temps, de leur énergie, Et puis aux côtés de tous les bénévoles, parce que j'ai énormément de bénévoles engagés. Hein. Quand je vous dis 250 entreprises engagées, vous comptez aussi tout le nombre de salariés qui vont donner de leur temps. Donc on a notre plateforme d'engagement qui apparaît sur Wannabe vendredi. Donc qui veut être engagé chez FAS peut, et en plus on peut même acter le nombre de temps de présence. Aussi quand on est une entreprise, on a très très peur de dire mais mes collaborateurs ils vont passer combien de temps dans votre association? Bah, c'est 2 heures en fait. On a acté 2 heures, c'est 2 heures, et puis on peut vous donner un document administratif qui vous le prouve. Et puis, bah, si on ne fait pas partie d'une entreprise, mais qu'on est juste un jeune engagé ou un candidat ou une personne lambda, une maman qui a du temps et qui veut trouver du sens, venez nous voir. On est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on est sur Insta, on est sur donc les plateformes de vocation, et puis on est bien sûr sur la façon classique, le mail, le numéro de téléphone, on m'appelle directement, on me toque sur LinkedIn et on sera ravis de vous recevoir.
Alors vous savez comment joindre Naïma Boudard, directrice du club FAS Val d'Oise, sur les réseaux évidemment, elle y est très présente, hein, j'en suis témoin. Merci Naïma d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir rejoint sur cette émission. Hamza, comment si on te contacte si on voudrait soutenir ton association, comment on fait?
Bah en fait c'est simple, hein. Nous c'est dans la maison. Donc vous allez juste taper dans la maison un peu partout, vous allez nous trouver. Donc voilà, après vous avez mes coordonnées personnelles directement. Donc on est sur Insta, on est sur Facebook, on est sur...
Alors sur Insta, sur Facebook, on
tape DLM-Domba Villepinte.
DLM.
Donc ouais, on est plus sur le surnom de DLM, donc dans la maison. Donc DLM-Duba et Villepinte, ça c'est sur Insta. Tout ce qui est TikTok et parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui sont sur TikTok. Donc et, voilà, c'est eux aussi qui tiennent justement le compte TikTok parce que bah c'est leur maintenant c'est leur on va dire c'est leur R, c'est à eux. Donc c'est DLM93420.
D'accord.
Insta c'est TikTok et Snap. Voilà. Et après, bah, en fait, vous allez rentrer, vous allez trouver directement mes coordonnées, les coordonnées de l'association où il y a vraiment toutes les informations comme le mail, le numéro de téléphone et tout ce qui va avec.
Merci beaucoup, Hamza, d'avoir accepté mon invitation, de nous avoir rejoint sur cette émission. Merci, Soela, qui a représenté les bénévoles, comme Lila, qui a été exceptionnel aujourd'hui sur cette émission.
Merci.
Après, si je peux te couper, donc nous, on a une petite, on a notre propre slogan. Donc, pour finir.
Alors, c'est quoi ce slogan? Ah,
le fameux.
On va finir slogan. Avec ça.
Donc, c'est on parle pas, on agit.
OPP,
donc on parle pas, on agit, tout simplement.
Ça vous ressemble. Ça vous ressemble. Au vu de ce qu'on a entendu. Alors voilà, l'émission s'achève. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette émission.
Merci.
Et je vous donne rendez-vous très vite, très bientôt
sur le terrain.
Et puis on aura l'occasion de rencontrer d'autres associations et d'inviter des associations qui sont actives sur le territoire sur l'émission Les Voix de l'Engagement. Et à très bientôt, au revoir à tous.
Merci. Merci.